Deuxième partie, l'expédition dans les magasins. Chapitre 3. Retour au bercail. Le bercail, la Conurbe, l'AMAB, l'axe métropolitain Atlanta-Boston. Programmer une carte pour représenter la fréquence des échanges de données, un seul pixel par millier de mégabits sur un écran géant. Manhattan et Atlanta y brillent d'un blanc éblouissant. Puis elles se mettent à palpiter, au risque que le rythme du trafic surcharge votre simulation. Votre carte est en passe de se transformer en OVA. On se calme, on diminue l'échelle. Un pixel par million de mégabits. À 100 millions de mégabits par seconde, on commence à discerner certains pâtés de maisons dans le centre de Manhattan. Les contours de zones industrielles, vieilles d'un siècle, cernant le noyau historique d'Atlanta. Kez s'éveilla d'un rêve d'aéroport, du cuir sombre de Molly qui glissait devant lui le long des coursives de Narita, Schiphol, Orly. Il se regarda acheter une fiasque de plastique de vodka danoise dans un kiosque quelconque, une heure avant l'aube. Quelque part, parmi les racines de ferro-béton de la Conurbe, un train chassait une colonne d'air confinée à travers un tunnel. Le train lui-même était silencieux, glissant sur son coussin à induction, mais le déplacement d'air faisait résonner le tunnel, des graves aux infrasons. La vibration atteignait la pièce où il se reposait, soulevant la poussière des fissures du parquet desséché. Ouvrant les yeux, il vit Molly, nue et juste hors de portée, sur une étendue de mousse rose toute neuve. Au-dessus, la lumière du soleil filtrait par une verrière maculée de suie. Un demi-mètre carré de verre avait été remplacé par une plaque d'aglo. Un gros câble gris en émergeait pour venir pendre à quelques centimètres du sol. Il se mit sur le côté pour la regarder respirer, contempler ses seins, la courbe d'un flanc définie avec l'élégance fonctionnelle d'un fuselage d'avion de combat. Son corps était économe, net, les muscles pareils à ceux d'une danseuse. La pièce était vaste. Il s'assit sur le lit. La pièce était vide, à l'exception de la vaste plaque rose du lit et de deux sacs de nylon, neufs et identiques, déposés à côté. Des murs nus, pas de fenêtres, une unique porte pare-feu en acier peint en blanc. Les murs étaient recouverts d'innombrables couches de peinture latex blanche. Local industriel. Ils connaissaient ce genre de piôle, ce genre d'édifice. Leurs locataires opéraient dans cette zone transitoire où l'art n'était pas tout à fait un crime. Le crime, pas tout à fait un art. Il était de retour au bercail. Il pivota pour poser les pieds par terre. Le sol était fait de petits morceaux de bois. Certains partis, d'autres décollés. Il avait la migraine. Lui revint le souvenir d'Amsterdam, d'une autre chambre, la vieille ville dans le centre, des bâtisses qui dataient de plusieurs siècles. Molly, revenue des abords du canal avec du jus d'orange et des œufs. Armitage, parti pour quelques mystérieuses expéditions, Molly et lui, marchant seuls sur la place du Dam, en direction d'un bar qu'elle connaissait du côté de Damrak. Paris était un rêve flou. Les magasins. Elle l'avait emmené faire les magasins. Il se leva, enfila la paire de jeans noirs, neufs mais froissés, qui gisaient à ses pieds, et s'accroupit à côté des sacs. Le premier qu'il ouvrit était celui de Molly. Vêtements pliés avec soin et petits gadgets d'aspect coûteux. Dans le second, s'entassaient les objets qu'il n'avait pas souvenir d'avoir achetés. Bouquins, bandes, une console de Simstein, des fringues aux étiquettes italiennes et françaises. Sous un t-shirt vert, il découvrit un paquet plat, dans un emballage cadeau en papier de soie recyclé, plié en origami. Le papier se déchira lorsqu'il saisit le paquet. En tomba, une éblouissante étoile à neuf branches, qui vint se planter toute droite dans une fissure du plancher. « Un souvenir, » dit Molly. « J'ai remarqué que t'arrêtais pas de les reluquer. » Il se tourna, et la vit assise en tailleur sur le lit, en train, l'air somnolent de se gratter le ventre, du bout de ses ongles bordeaux. « Quelqu'un passera plus tard renforcer la protection des lieux », annonça Armitage. Il se tenait sur le seuil, une antique clé magnétique dans la main. Molly était en train de faire du café sur le minuscule bleuet qu'elle avait sorti de son sac. « Je peux le faire », répondit-elle. « J'ai déjà suffisamment de matos. Balayage infrarouge, alarme périmétrique. »« Non, » fit-il en refermant la porte, « je veux du sérieux. »« À votre guise. » Elle portait un t-shirt en filet sombre enfoncé dans une culotte bouffante de coton noir. « Déjà échaudé, monsieur Armitage ?» demanda Kies, depuis son coin, le dos appuyé au mur. Armitage n'était pas plus grand que Kies, mais avec sa carrure et son port militaire, il donnait l'impression de remplir toute la porte. Il portait un costume italien sombre. Dans la main droite, une mallette de veau noir. La boucle d'oreille des forces spéciales avait disparu. Les traits fins, inexpressifs, présentaient la beauté banale des boutiques de cosmétiques, amalgame discret de visages de célébrités médiatiques de la dernière décennie. L'éclat pâle de ses yeux renforçait l'effet de masque. Kies regrettait déjà sa question. « Je veux dire, il y a quantité de types des forces qui finissent flics, ou vigiles, » ajouta Kies, mal à l'aise. Molly lui tendit une tasse de café fumant. « Ce numéro que vous leur avez fait exécuter sur mon pancréas, ça sent la méthode flicarde. » Armitage referma la porte et traversa la pièce pour venir s'immobiliser devant Kies. « Vous êtes un vénard, Kies. Vous devriez me remercier. »« Pas possible. » Kies souffla bruyamment sur son café. « Vous aviez besoin d'un nouveau pancréas. Celui qu'on vous a acheté vous libère d'une dangereuse dépendance. » « Merci, mais j'appréciais cette dépendance. À la bonne heure. Parce que vous en avez une autre. Comment ça ?» Kies leva les yeux de sa tasse. Armitage souriait. « Vous avez 15 sachets de toxines collés à la paroi de diverses artères principales, Kies. Ils sont en train de se dissoudre, très lentement. Mais ils se dissolvent néanmoins. Chacun d'eux contient une mycotoxine. » Vous êtes déjà accoutumé aux effets de la dite mycotoxine. C'est elle dont vos précédents employeurs vous ont gratifié à Memphis. Kies fixa le masque souriant en clignant des yeux. Vous avez le temps d'exécuter ce pourquoi je vous ai engagé, Kies, mais c'est tout. Faites le boulot et je peux vous injecter l'enzyme qui décollera les sachets sans les ouvrir. Ensuite, vous aurez besoin d'une transfusion totale. Sinon, les sacs fondront, et vous vous retrouverez dans l'état où je vous ai trouvé. Alors, vous voyez, Kies, vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nous tout autant que lorsque l'on est venu vous repêcher dans le ruisseau. Kies regarda Molly. Elle haussa les épaules. À présent, vous descendrez par le monte-charge, cherchez les caisses que vous trouverez en bas. Armitage lui tendit la clé magnétique. Allez, ça va vous plaire, Kies. Comme un matin de Noël. L'été, dans la Conurbe, les foules sur les avenues qui ondulent comme l'herbe couchée par le vent, un champ de chair humaine balayé par des courants soudains de désir et de récompense. Assis près de Molly dans la lumière solaire filtrée, sur la margelle en béton d'une fontaine à sec, il laissait le courant interminable des visages récapituler les étapes de sa vie. D'abord un enfant aux yeux dissimulés, un gamin des rues, main détendue, prête, collée aux côtes, puis un ado, visage lisse et mystérieux derrière les lunettes rouges. Kies se souvint de s'être battu sur les toits à 17 ans, un combat silencieux dans la lueur rose des dômes à l'aube. Il changea de position, sentit le béton râpeux et froid à travers la toile noire et mince du jean. Rien ici d'analogue à la danse électrique de Ninsei. C'était un commerce différent, un rythme différent, dans l'odeur mêlée de la bouffe express, du parfum et de la sueur de l'été neuf. Avec sa console, qui attendait là-bas dans le loft, une Ono Sendai Cyberspace 7, ils avaient abandonné les lieux jonchés des formes abstraites et blanches d'emballages en polystyrène expansé, de films de polyéthylène froissé et de minuscules boules de polystyrène. l'Ono Sendai, le plus coûteux des ordinateurs d'Osaka, à sortir l'année prochaine, un moniteur Sony, une douzaine de disquettes de glace label Conglom, une machine à café Braun. Armitage n'avait attendu que l'accord de Keyes pour chacun de ces éléments. Où est-il descendu, avait-il demandé à Molly. Il aime bien les hôtels, les grands, près des aéroports quand il peut. Descendons dans la rue. Elle s'était glissée dans une combinaison de surplus, munie d'une douzaine de poches aux formes étranges, avant de chausser une énorme paire de lunettes noires qui couvraient totalement ses miroirs implantés. « T'avais déjà entendu parler de cette histoire de toxine ?» lui demanda-t-il près de la fontaine. Elle hocha la tête. « Tu crois que c'est vrai ?»«
Peut-être, peut-être pas. Comme tu veux, tu choisis. »«
Tu vois un moyen que je le sache ?»«
Non, » fit-elle, main droite levée, qu'elle agita pour lui signifier le silence.
Ce genre de trafic est trop subtil pour apparaître au scanner. Nouveau mouvement des doigts, attends. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de t'inquiéter outre mesure. Je t'ai vu caresser ce Sendai, mon vieux. C'était pornographique. Elle rigola. Et toi alors, te tiens comment? Comment a-t-il fait pour embobiner l'indépendante?
L'orgueil professionnel, mon chou, c'est tout.
À nouveau, le signal du silence. On va se prendre un petit déjeuner, Dak?
Des œufs, du vrai bacon.
Probable que ça va te tuer. Depuis le temps que tu bouffes ce krill de chiba reconstitué. Allez, viens. On descend à Manhattan en métro se prendre un vrai petit-déj. Les tubes au néon éteint épelaient Métro Holographics en capitale de verre poussiéreux. Keyes récupéra un filament de bacon qui s'était coincé entre deux incisives. Il avait renoncé à lui demander où ils allaient et pourquoi. Pour toute réponse, il avait eu droit à des bourrades dans les côtes et des signes de se taire. Elle l'avait entretenu de la mode de la saison de sport, d'un scandale politique en Californie, dont il n'avait jamais entendu parler. Il contempla l'impasse déserte. Une feuille de journal imprimée passa en voltigeant au milieu du carrefour. Les tourbillons de vent de l'East Side, un truc en rapport avec des phénomènes de convection et avec le revêtement des dômes. Keyes contempla derrière la vitrine l'enseigne éteinte. La connerbe de cette fille n'était décidément pas la sienne. Elle l'avait trimballée dans une douzaine de bars et de boîtes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Pour y mener ses affaires, le plus souvent, sans rien de plus qu'un signe de tête, garder les contacts. Quelque chose se mouvait dans l'ombre, derrière Métro Holographics. La porte était une plaque de tôle ondulée. Devant, les mains de Molly décrivirent une séquence complexe qu'il fut incapable de suivre. Il entrevit le signe fric, le pouce qui frotte le bout de l'index. La porte s'ouvrit vers l'intérieur et elle le guida dans l'odeur de la poussière. Ils se retrouvèrent dans un étroit chenal, au milieu d'un amoncellement dense de détritus qui s'élevait de part et d'autre jusqu'au mur où s'alignaient des rangées de livres de poche partant en poussière. Les détritus semblaient avoir poussé sur place, champignons faits de métal tordu et de bouts de plastique. Ils pouvaient discerner individuellement chaque objet, mais ils semblaient aussitôt se fondre à nouveau dans le flou d'une masse indistincte. Les entrailles d'un téléviseur, tellement antique, qu'elles se hérissaient des moignons de tubes à vide, une antenne parabolique écrasée, une caisse en isorelle remplie de tourets corrodés de tubes en alliage. Une énorme pile de vieux magazines avait dégringolé dans une zone dégagée, chair d'été perdue qui le contemplait d'un regard aveugle, tandis qu'il suivait la fille au long d'un étroit canyon d'ordures écrasées. Il entendit la porte se refermer derrière eux. Il ne se retourna pas. Le tunnel s'achevait sur une ancienne couverture de l'armée agrafée en travers d'une porte. Un faisceau de lumière blanche les inonda, lorsque Molly se pencha pour passer en dessous. Quatre murs carrés de plastique nu et blanc, plafond assorti, le sol en carreau blanc, genre hôpital avec des pastilles antidérapantes. Au centre était disposée une table carrée, peinte en blanc, et quatre pliants, blancs aussi. L'homme qui se tenait, clignant des yeux sur le seuil derrière eux, avec la couverture qui lui drapait l'épaule comme une cape,
semblait avoir été dessiné dans une soufflerie. Il avait les oreilles toutes petites, plaquées contre son crâne étroit, et ses larges incisives que révélait, ce qui n'était pas tout à fait un sourire, étaient fortement inclinées vers l'arrière. Il portait une antique veste en tweed et tenait une espèce de pistolet dans la main gauche. Il l'élorgna, cligna de l'œil, puis enfourna l'arme dans sa poche de veste. Il fit signe à Case, désignant une plaque de plastique blanc posée contre le mur près de la porte. Case s'en approcha et vit que c'était une dense plaque de circuit sur une épaisseur de près d'un centimètre. Il aida l'homme à la soulever et à la disposer dans l'embrasure. Des doigts vifs, tachés de nicotine, l'arrimèrent à l'aide d'une bordure de velcro blanc. Un ventilateur d'extraction, dissimulé, se mit à ronronner. « Le chrono tourne !» dit l'homme en se redressant. « Tu connais le tarif, Moll ?»« On a besoin d'un scannage. Le finnois. Recherche d'implant. Eh bien, avance entre les colonnes. Reste bien sur le ruban. Redresse-toi, ouais. À présent, tourne-toi. 360 degrés. » Case la regarda pivoter entre deux piquets d'allure fragile hérissés de capteurs. L'homme sortit de sa poche un petit moniteur et loucha sur l'écran. « Un truc nouveau dans ta tête. Ouais. Silicone, couche de carbone pyrolytique. Une horloge, c'est ça ? Tes verres me donnent l'image habituelle. Carbone isotropique à basse température. La biocompatibilité est meilleure avec les pyrolytiques. Mais c'est ton affaire, pas vrai ? Idem avec tes griffes. Viens voir ici, Case. » Il vit un X noir éraflé sur le sol blanc. « Tourne-toi, doucement !» Le type est vierge. L'homme haussa les épaules. « Quelques plombages bon marché, c'est tout. Tu peux lui faire un bilan biologique ?» Molly dézippa sa combinaison verte, puis ôta ses lunettes noires. « Tu te crois au maillot ? Monte sur la table, gars, on va te faire une petite biopsie. » Il rit, découvrant un peu plus ses dents jaunes. « Nan, parole de finnois, beau gosse, pas de petite puce, pas de bombe corticale. Tu veux que je baisse l'écran ? Juste le temps que tu décampes, finnois. Ensuite, on le veut plein jus, autant qu'on voudra. » « Et pas de problème pour le finnois, Moll. Après tout, c'est toi qui payes à la seconde. » Ils verrouillèrent la porte derrière lui, et Molly retourna l'une des chaises blanches pour s'y installer à califourchon, menton posé sur les bras croisés. « Et maintenant, on cause. Question, discrétion, c'est tout ce que je peux me payer. »« On cause de quoi ? De ce qu'on a fait ? On bosse pour Armitage. Et tu prétends qu'en fait, c'est pas pour lui ? Ouais, j'ai vu ton profit, Case. Et j'ai aperçu le reste de notre liste de courses une fois. » « Déjà bossé avec des morts ?»« Non. » Il contempla son propre reflet dans les verres de Molly. « Je pense que je pourrais. Je fais bien ce que je fais. » L'emploi du présent le rendait nerveux. « Tu sais que Dixie, le très plat, est naze ?» Il acquiesça. « Le cœur à ce qu'on m'a dit. »« Tu bosseras avec son construct. » Elle sourit. « C'est eux qui t'ont appris les ficelles du métier, hein ? Lui et Kin ?» « Je connais Kin, au fait, un vrai connard. »« Quelqu'un détient un enregistrement de Michael. Paulet ? Qui ça ?» À présent, Case s'était assis, les coudes posés sur la table. « J'ai du mal à voir qui. Jamais il ne l'aurait encaissé. Senso, réseau, ils ont dû le payer un max, tout ce que tu veux. Kin est mort, lui aussi ? Ce serait trop beau. Non, il est en Europe. » Il n'intervient pas là-dedans. Eh bien, si on peut avoir le très plat, on est bon. C'était lui le meilleur. Tu sais qu'il est cliniquement mort trois fois ? Elle acquiesça. Encéphaloplat sur toute la ligne. Il m'a même montré les graphes. Bon Dieu, mec, j'étais refroidi. Écoute, Case, j'essaye de déterrer qui se trouve derrière Armitage depuis que j'ai signé. Mais ça ne m'a l'air ni d'un zébatsu, ni d'un gouvernement, ni d'une quelconque filiale de Yakuza. Armitage reçoit des instructions. à croire qu'on lui a ordonné de se rendre à Shiba. D'aller y repêcher un accro, près d'être définitivement cramé, et de fourguer un programme en échange de l'opération qui le remettra sur pied. On aurait dû se payer 20 cow-boys de classe internationale, avec ce qu'ils étaient prêts à lui filer pour avoir ce programme chirurgical. Tu étais un bon, mais quand même pas à ce point. Elle se gratta l'aile du nez. À l'évidence, ça vaut le coup pour quelqu'un, observa-t-il, quelqu'un d'important. Te vexe pas pour ça, elle sourit. On va se payer une passe dans le sein du sein, qu'est-ce ? Juste pour récupérer le construct de très plat. Senso Réseau l'a plaqué dans un coffre d'archives, quelque part dans le centre. Moins accessible qu'un cul d'anguille, qu'est-ce ? Bon, Senso Réseau planque également au même endroit toutes ses nouveautés pour la rentrée. Tu piques ça, et on se retrouve plus riche que Crésus. Mais pour l'heure, faut qu'on se récupère le très plat, un point c'est tout. Bizarre, non ? Ouais, tout est bizarre dans ce truc. T'es bizarre, ce trou est bizarre. Et qui est ce bizarre petit blaireau de l'autre côté dans l'entrée ? Le finnois est une vieille connaissance. Fait surtout du recel, de logiciel. La protection anti-écoute est un boulot annexe. Mais j'ai convaincu Armitage d'en faire notre technicien. Alors, quand il se pointera plus tard, tu ne l'as jamais vu, pigé. Et qu'est-ce qu'Armitage t'a mis à dissoudre dans les veines ? Moi, je suis facile à persuader. Elle sourit. Comme tous les vrais pros, pas vrai ? Tu te branches, moi je me bagarre. Il la fixa. Bon, alors raconte-moi donc ce que tu sais d'Armitage. Pour commencer, aucun individu du nom d'Armitage n'a jamais pris part à une quelconque opération du nom de Point Hurlant. J'ai vérifié, mais ça ne prouve pas grand-chose. Il ne correspond à aucune des photos des mecs qui s'en sont sortis. Elle haussa les épaules. T'es bien avancé, et je n'en sais pas plus. Elle pianota du bout des doigts sur le dossier de sa chaise. Mais c'est toi le cow-boy, pas vrai ? Je veux dire, tu pourrais peut-être jeter un petit coup d'œil dans le coin, non ? Elle sourit. Il me tuerait. Peut-être, peut-être pas. Je crois qu'il a besoin de toi, qu'est-ce vraiment besoin ? En plus, t'es un malin, non ? Tu peux le doubler sans problème. Qu'y a-t-il d'autre dans la liste que tu as évoquée ? Des jouets, la plupart pour toi, et un psychopathe grandin, du nom de Peter Rivera, le méchant client. Où est-il ? Je sais pas, mais un vrai malade, je te dis pas. J'ai vu son profil. Elle fit la grimace. Affreux ! Elle se leva, s'étira une vraie chatte. Alors on se lance, gamin ? On est ensemble dans le coup ? Partenaire ? Kaise la regarda. J'ai pas des masses de choix, hein ? Elle rit. T'as tout pigé, cow-boy. La matrice tire ses racines des jeux vidéo les plus primitifs, expliquait la voix hors champ des tout premiers programmes graphiques et des expérimentations militaires avec les connecteurs crâniens. Sur le Sony, une guerre spatiale en deux dimensions s'évanouit derrière une forêt de fougères générée de manière mathématique, démontrant les possibilités spatiales des spirales logarithmiques. Insertion d'une séquence d'archives militaires, bleu glacé. Animaux de laboratoire câblés sur des dispositifs d'expérimentation, casques branchés sur les circuits de contrôle de mise à feu de blindés et d'avions de combat. Le cyberspace. Une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d'opérateurs dans tous les pays, par des gosses auxquels on enseigne les concepts mathématiques. Une représentation graphique de données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. Une complexité impensable. Des traits de lumière disposés dans le non-espace de l'esprit, des amas et des constellations de données, comme les lumières de ville dans le lointain. « C'est quoi ?» demanda Molly, comme il manipulait le sélecteur des canaux. « Une émission pour les gosses. Déferlement discontinu d'image, tandis que le sélecteur balait la gamme. « Coupe !» lança-t-il à l'Osaka. « Tu veux tenter le coup tout de suite, Kaise ?» Mercredi, 8 jours depuis son réveil à l'hôtel Echo, avec Molly à ses côtés. « Tu veux que je sorte, Kaise ? Ce sera peut-être plus facile pour toi, seul. » Il hocha la tête. « Non, reste, ça n'a pas d'importance. » Il remit le bandeau noir sur son front, en prenant soin de ne pas déplacer les plaques des dermatrodes, Sendai. Il fixa la console, posée sur ses genoux, sans réellement la voir, contemplant à la place la vitrine sur Ninsei, le shuriken chromé qui brûlait du reflet du néon. Il leva les yeux, au mur, juste au-dessus du Sony. Il avait suspendu son présent, à l'aide d'une punaise à dessiner jaune, passée dans le trou au centre. Il ferma les yeux, trouva la surface striée du bouton de marche. Et dans l'obscurité rouge sang, derrière ses paupières, des phosphènes d'argent jaillit en bouillonnant de la lisière de l'espace, image hypnagogique qui passe en tressautant, tel un film compilé à partir de photos prises au hasard. Symboles, chiffres, visages, mandala brouillé, fragmenté d'informations visuelles. « Oui, implora-t-il, maintenant !» Un disque gris de la couleur du ciel de Chiba. « Maintenant !» Le disque, qui se met à tourner, de plus en plus vite, et devient une sphère de gris pâle, qui gonfle, et s'écoule, et fleurit pour lui, ambiance, origami de néon fluide, dévidant la vision de son bercail hors distance, sa patrie, échiquier transparent en tridi, qui s'étend jusqu'à l'infini. Œil intérieur qui s'ouvre sur l'écarlate pyramide crénelée de l'électronucléaire de la côte Est, brûlant au-delà des cubes verts de la Mitsubishi Bank of America. Et tout là-haut, tout au loin, il voit les bras spiraux des systèmes militaires, à jamais hors de sa portée. Et quelque part, il était en train de rire, dans un loft peint en blanc, doigt lointain, caressant la console, larmes de soulagement ruisselant sur son visage. Molly était partie lorsqu'il ôta les trodes et le loft était plongé dans l'obscurité. Il vérifia l'heure. Il avait passé 5 heures en cyberspace. Il alla déposer l'Ono Sendai sur l'une des tables de travail nouvellement installées et s'effondra sur la plaque du lit, ramenant le duvet noir de Molly au-dessus de sa tête. Le dispositif de sécurité collé contre la porte d'acier bipa 2 fois. « Entrée demandée », annonça l'appareil. « Sujet autorisé, d'après mon programme. »« Eh bien, ouvre !» Kez rabattit le duvet de sur son visage et s'assit au moment où la porte s'ouvrait, s'attendant à voir apparaître Molly ou Armitage. « Merde !» dit une voix rauque. « Je sais bien que la salope peut voir dans l'obscurité. » Une silhouette trapue entra puis referma la porte. « Allumez ça, voulez-vous ?» Kez se leva vite fait et trouva le vieil interrupteur. « Moi, c'est le Finnois !» annonça le Finnois, grimace d'avertissement à l'adresse de Kez. « Et moi, Kez ?» « Enchanté, pour sûr. »« Je bricole un peu pour votre patron, à ce qu'il se trouve. » Le Finnois pêcha dans le fond d'une poche un paquet de partagas et en alluma un. L'odeur du tabac cubain emplit la pièce. Il se dirigea vers la table de travail et jeta un œil sur l'Ono Sendai. « M'a l'air de série. Vais pas tarder à arranger ça. Mais après tout, c'est ton problème, gars. » Il prit dans son blouson une enveloppe Kraft crasseuse, fit tomber ses cendres par terre, puis sortit de l'enveloppe un rectangle noir sans marque. « Putain de proto d'usine » annonça-t-il en lançant l'objet sur la table. Il les moule dans un bloc de polycarbonate. Impossible d'y entrer avec un laser sans cramer tout le foutu bordel. Piégé contre les rayons X, l'ultra-scanner. Dieu sait quoi encore. On entrera quand même. Y a pas d'heure pour les braves, pas vrai ? Il replia l'enveloppe avec le plus grand soin, avant de la fourrer de nouveau dans sa poche intérieure. Qu'est-ce que c'est ? C'est un interrupteur à bascule, en gros. Tu le câbles sur ton Sendai, là, et tu peux accéder à tous les Simsteams vivants ou morts sans avoir besoin de te déconnecter de la matrice. Pourquoi faire ? Pas la moindre idée. Je sais que je suis en train de préparer Molly pour l'adaptation d'une broche d'émission. A priori, ça voudrait donc dire que c'est à son sensorium que tu aurais accès. Le Finnois se gratta le menton. « Ben, maintenant, t'auras plus qu'à tenter voir à quel point ces jeans sont serrés. Pas vrai, mon salaud ?